Lundi 26 juin 2017, Primo Villa vous propose de vivre l'inauguration du 17 Wilson, un immeuble exceptionnel situé à Romainville. Une émission à écouter à partir de 18h en direct sur radio-imo.fr.
Radio-imo.fr.
Eh bien, nous y sommes. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Nous sommes le 26 juin à l'inauguration du 17 Wilson. On voit physiquement ce à quoi ressemble cet immeuble. On est allé faire un petit tour. Et sur le plateau, ici à Radio Immo, on est très heureux d'être présent et de vous faire partager ce moment extraordinaire. J'ai présent sur le plateau quelqu'un que l'on ne présente quasiment plus maintenant, puisqu'il est habitué à Radio Immo. Et c'est une personne qu'on apprécie tout particulièrement, beaucoup par sa simplicité et son accessibilité. En tout cas, on en est très heureux. C'est Corinne Valls, maire de Romainville.
Bonsoir et merci de m'accueillir une fois encore.
Bonsoir, je vais me permettre de vous appeler Corinne.
Oui, oui.
Avec grand plaisir. Je sais que c'est la quatrième fois que vous allez. C'est la troisième fois. Absolument, c'est la troisième fois que vous placez sur le plateau. Mais ce plaisir ne serait pas complet sans la personne qui est à côté de vous, qui est maire adjoint, c'est Jacques Champion. Comment ça va, Jacques ?
Ben, ça va chaudement.
Voilà, on va l'appeler le Twitter fou. Il nous tweet. Régulièrement oui, sur radio et d'ailleurs il a été l'un des premiers à suivre l'évolution de la radio. Merci Jacques, c'est un vrai plaisir de vous avoir
parce
sur le
que c'est une radio qui est originale puisqu'elle parle de l'immobilier.
Absolument.
Et elle en parle de bonne façon.
Et puis il y a Michou.
Michou.
Voilà. Voilà, Michou, après une longue carrière de transformiste rue des Martyrs, a trouvé une nouvelle carrière dans la radio, bien évidemment.
Une belle carrière.
Absolument, une belle carrière dans la radio. Et nous avons l'hôte de ces lieux, l'organisateur, le grand maître de cérémonie de cette soirée. C'est le président de Primo Villa, quelqu'un qu'on connaît bien à la radio, qui est aussi l'un de nos principaux partenaires, qui a cru dans le média d'ailleurs dès le début, puisque on va fêter plus d'un an et demi, on a presque deux ans d'existence. C'est bien sûr Loïc Le Mans.
Bonsoir.
Comment ça va, Loïc ?
Parfait.
Et en plus, Loïc, à partir de là...
Dès qu'on est en ta présence, on est bien.
Merci, c'est adorable. Et en plus, Loïc nous a fait le plaisir et l'honneur d'animer sur la prochaine grille de rentrée une chronique mensuelle. Voilà, il se lance aussi dans la radio. On crée des émules comme ça à la radio. Voilà, on attend juste le jour où Corinne Valls pourra aujourd'hui faire des chroniques aussi sympas, parce que je trouve qu'elle a une voix super. Vraiment, hein. Je trouve que vous avez une voix
super.
C'est
gentil.
Alors tout à l'heure, vous disiez quelque chose, que lorsque Loïc vous disait « Waouh, vous avez l'habitude de faire des discours quand vous prenez le micro », vous avez dit « Non là, j'ai tout le temps le trac ». Et ça me rappelle une anecdote. Vous savez, il y a une jeune comédienne qui va voir Sarah Bernard et qui lui dit « Écoutez, la grande Sarah Bernard, écoutez, quand je monte sur scène, moi, j'ai pas le trac ». Et là, elle lui répond « Écoutez, il n'y a eu aucune crainte, ça viendra en même temps que le talent
». Très juste.
C'est très gentil.
C'est dur.
Et donc, je trouve ça à la fois rassurant et aussi singulier de se dire, voilà, même après une belle carrière aussi, d'avoir autant le trac, ça prouve effectivement qu'il y a toujours du génie qui se cache derrière tout ça. Et donc, ça nous fait très plaisir de vous avoir sur le plateau. On va parler d'aménagement du territoire, bien sûr. On va parler d'urbanisme, parce que l'urbain, c'est la ville, c'est la vie. Ce sont les gens qui vivent ensemble, qui partagent des projets et qui partagent aussi des grosses galères, ça c'est clair, et avec des problèmes à résoudre. Et qui, mieux que le premier magistrat de la ville, peut régler ces problèmes et absorber finalement toute cette diversité, voire cette complexité. Et d'ailleurs, de complexité, c'est bien de ça dont il s'agit, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de pensée globale, de pensée complexe ou d'intellectuel collectif. La réunion de plusieurs éléments, des univers privés, publics, qui se réunissent dans des œuvres à accomplir. Et là, en l'occurrence, on a un très, très beau projet qui est sorti de terre. C'est le 17 avenue Wilson. Alors, j'ai envie de vous poser une question, Corinne. Et là, pour le coup, je vais sacraliser la chose en disant, Madame le maire, un projet comme le 17 Wilson, c'est un très beau projet sur deux terres. Est-ce qu'il n'y a pas là une symbolique de l'alliance entre le public, le privé, dans des projets urbains qui sont bénéfiques à tous ?
Complètement. Alors, je crois qu'il est symbolique à plusieurs titres. J'en citerai notamment deux. Nous avons visité tout à l'heure, alors par une température un peu chaude, oui, mais
ouais,
les serres, proche du micro-ondes, les serres qui sont au dernier étage, qui donc sont en fait nos premières serres d'agriculture maraîchère et donc de retour à l'histoire séculaire de notre ville. Et voilà, j'espère que les copropriétaires sauront les utiliser à plein et vraiment y trouver un endroit de convivialité et de vivre ensemble, puisque là, elles n'ont pas une vocation économiques au sens d'entreprise.
Bien sûr.
Elles ont vraiment une vocation à faire que voilà, les habitants de ces deux bâtiments
se retrouvent. On peut profiler finalement l'expérience de ces serres dans vos projets qui vous tiennent à cœur, dont vous êtes à l'origine, il faut le savoir aussi, c'est les fameuses tours maraîchères.
Voilà, donc ça donne à voir.
Ça profile.
Ça donne à voir ce que pourra être la tour maraîchère et les serres sur les toits, puisque
absolument.
L'idée c'était de poursuivre ces serres un peu partout sur la ville. Il y a un autre aspect moi qui me ravit, puisque nous avons eu l'occasion de rencontrer, d'être accueillis chez un couple de copropriétaires et qui là aussi symbolise ce que l'on veut faire en matière de construction et de rénovation de la ville, à savoir le parcours résidentiel, puisque c'est un couple qui était dans le logement social et qui donc, vu les conditions faites, vu l'accompagnement du promoteur, ont pu acquérir, et on est vraiment là dans ce que nous souhaitions fortement, c'était de pouvoir construire et permettre à des Romainvillois, ceux qui le souhaitent, ceux qui en ont un peu les moyens bien évidemment,
bien sûr,
de sortir du logement social et de pouvoir s'installer durablement sur la ville et finir d'ancrer leurs enfants, et là, en l'occurrence ils ont un grand jeune homme mais qui est encore mineur, pouvoir l'ancrer sur la ville et pouvoir s'installer. Et je trouve que là aussi c'est une belle réussite et c'est ces deux aspects tout à fait symboliques de ce qui nous a animés depuis des années dans le réaménagement de cette ville.
Jacques, l'aménagement du territoire, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet.
Et
lorsqu'on est dans une municipalité qui pourrait paraître comme ça un peu enclavée, mais qui est très proche de Paris, les soucis sont multiples en fait, en réalité. Mais lorsqu'on se pose toutes les questions qu'on se pose dans la société moderne aujourd'hui, qui sont les problématiques de discrimination géographique, les problématiques de type communautaire et autres, comment on aborde aujourd'hui cette approche ? Est-ce qu'on l'aborde de façon globale ? Est-ce qu'on se dit de toute façon il faut qu'il y ait une alliance objective entre le public et le privé ? Vous l'avez déjà d'ailleurs souvent cité, nous ne pourrions pas mener une politique de bonne qualité si nous n'avons pas une alliance objective, au-delà des dogmes ou même des idéologies dans une certaine mesure, pour justement mener à bien ces projets. Vous êtes, vous, en charge de l'aménagement. Est-ce que c'est un sujet qui est vraiment prégnant ?
Ah bah oui, c'est prégnant. Mais permettez-moi avant de vous dire un petit mot. D'abord, on est sur le lieu qui s'appelle les Salaisons. Et c'est pas pour rien, quoi. Voilà, les Salaisons, ça vient de ce qui existait auparavant, donc des lieux où on salait la charcuterie. Voilà. Et c'est des lieux qui existent parce que la ville a voulu que ça soit ainsi. Et donc c'est assez symptomatique à la fois de la construction neuve, donc ce qu'on vient d'inaugurer, et à la fois de la réhabilitation, tout ça se côtoie. Et dans une rue qui a été beaucoup sujet à des mutations, beaucoup de mutations, parce qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui sont installées dans cette rue, et les entreprises petit à petit sont parties, évidemment. Et ce qui montre bien, en tous les cas, que quand on veut essayer de reconstruire une ville, parce que Romainville était dans ce cas-là, reconstruire une ville, d'abord, ça se fait sur du long terme. Il faut une trentaine d'années pour reconstruire une ville. Et évidemment, le public peut faire un certain nombre de choses, mais son appui principal, c'est de faire en sorte de travailler avec le privé, en somme, sur une idée gagnant-gagnant. Voilà. Il faut que le public soit gagnant, et il faut que le privé, eh bien, soit pas, évidemment, exsangue où on lui tord le cou.
Bien sûr.
Voilà. Il faut que tout le monde s'y retrouve. Et c'est dans ce cadre-là qu'on arrive à faire des belles choses, comme ça a été le 17 Wilson, ou d'autres réussites merveilleuses, notamment sur la rénovation de Cachin qu'on a pu faire, qui est ici à 300 mètres. Donc ça montre bien que... Mais il faut être un peu dingue.
Voilà. Oui.
Il faut être un peu dingue.
Ou visionnaire.
Parce que... Faut être visionnaire.
Vous savez, l'étymologie du mot utopie, c'est réalité de demain. Si on n'est pas un peu utopiste, on réalise rien.
Voilà.
Finalement.
Et il faut être persuasif, parce que tout le monde ne comprend pas le rythme qu'il faut.
Bien sûr.
Il y a des fois qu'il faut faire du stand-by, expliquer. Mais ça n'empêche pas, en tous les cas, les mutations de se poursuivre. Et s'il n'y a pas maîtrise de la ville, eh ben, évidemment, ça peut partir dans n'importe quoi. Voilà. C'est pour ça que la maîtrise publique est importante et le travail en corrélation avec le privé l'est autant.
Loïc Lemand, quand on entend des politiques ancrés dans leur territoire, très ancrés dans leur territoire, tenir ce langage, c'est très rassurant lorsqu'on est un promoteur comme vous, qui avait aussi le souci de l'aménagement du territoire. On n'est pas que dans un monde effectivement économique, il y a aussi les entreprises aussi répondent à des besoins sociétaux. Elles remplissent des devoirs sociaux. Il y a des règles sociales qui nous permettent de tous vivre ensemble. Est-ce que vous trouvez finalement, dans une certaine mesure, qu'avec l'évolution du monde de la promotion que vous connaissez bien, on va de plus en plus vers ces alliances, vers ces convergences de vues?
Oui, je suis complètement d'accord, mais je dirais que c'est pas un mouvement naturel. Je pense que c'est vraiment initié par les collectivités locales. Ici, parlons de Romainville, parce que je rappelle quand même que cette ville a eu le Grand Prix national de la construction l'année dernière. Enfin, je veux dire, c'est pas alors que c'est une commune de 25 000 habitants, 26 000. Donc c'est pas une énorme commune. Et pourtant, il y a cette volonté justement d'urbanisme avec des choix. Grands, des vrais choix, d'agriculture urbaine, de trouver une harmonie entre le commerce, l'habitat, le social, l'accession, de faire en sorte que ça soit une vraie ville qui vive avec aussi les équipements publics, etc. Et donc, nous, les promoteurs, en fait, on est très heureux quand on peut travailler avec une collectivité de cette façon, parce que c'est un vrai partenariat gagnant-gagnant. On écoute ce qu'ils demandent. Et ce qu'ils demandent, c'est ce qu'attendent les citoyens. Ils les connaissent, ils les côtoient tous les jours. C'est pas uniquement que de l'accession, c'est pas uniquement que du locatif. C'est une volonté de vivre dans un environnement où de vivre ensemble, où on est heureux d'être là, où on a envie vraiment de vivre au quotidien, d'y élever ses enfants, etc. Et d'y garder également ses anciens. Donc, pour moi... le partenariat public-privé, il est totalement indispensable et ça nous permet de pouvoir réaliser des opérations notamment innovantes parce qu'on a l'appui politique, je dirais, des dirigeants d'une commune.
Si Loïc me le permet, rajouter un mot. Je crois que dans le même temps, alors je ne jetterai pas la pierre aux élus qui ne s'inscrivent pas dans la même démarche. Et je crois qu'il faut en être conscient. Il y a des territoires où il est plus difficile, y compris pour des promoteurs, de s'installer parce qu'ils ne connaissent pas la même dynamique. Et nous, on bénéficie aussi du fait que nous soyons en première couronne, toute proche de Paris, que le métro est en train d'arriver. Là, on est plein dans les travaux, oui. Avec tout ce que ça signifie.
Bien mais sûr.
Voilà, on est aussi situé de telle manière que cette idée de partenariat public-privé, elle a du sens et elle est, je dirais, un peu plus facile. Ça n'est pas vrai, par exemple, en Seine-Saint-Denis, ça n'est pas vrai sur l'ensemble du territoire.
Bien sûr.
Parce qu'il y a des communes plus éloignées où, d'ailleurs, les promoteurs peinent à aller. Enfin, voilà, on achète en VFA, par exemple.
Il y en a certains qui n'y vont même pas. Vous savez, voilà. On fait bientôt une émission qui s'appelle « Les territoires perdus de la République », sur lesquels on a un coût de construction qui est inférieur au prix du foncier. Donc ça équivaut à dire qu'un mètre carré vaut zéro. C'est phénoménal quand on sait les tensions qui règnent pour loger tout le monde dans ce pays. Oui. Ça paraît fou.
D'où l'intérêt quand même de réaliser dans les meilleurs délais, par exemple, le Grand Paris Express.
C'est une urgence.
Voilà. C'est une
mesure de santé publique et d'urgence absolue.
Tout à fait. Indispensable à permettre aux différents territoires, absolument, aux différentes communes de se développer.
Absolument.
Et voilà, donc ce partenariat, Loïc a raison de dire que c'est pas aussi naturel que ça, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas seulement une question de volonté politique. Il faut aussi que les lieux, les conditions s'y prêtent.
Bien sûr.
Dans 10 ans, en 2030, un peu plus de 10 ans, c'est 3 millions de gens qui vont venir habiter le Grand Paris. Donc il faut s'y préparer. Si on s'y prépare pas, on passe à côté de plein de choses. Est-ce qu'on fait une ville dynamique? Ou est-ce qu'on revient en arrière de faire une ville dortoir? Rien ne s'y passe.
On a l'impression qu'on est dans une transition
qui
soulève un certain nombre de difficultés, et pas que des difficultés économiques. C'est repenser la ville pour tisser du lien aussi. Les difficultés aujourd'hui qui s'exacerbent entre les problèmes de type communautaire et aussi, disons-le, une présence ou une puissance publique qui n'a pas toujours joué le rôle en termes d'autorité, en termes de solennité ou de sacralisation de la chose publique, a justement un peu repoussé, un peu comme la poussière qu'on met dans les coins, des problématiques qui nous exposent à la tronche, parce que tout simplement, on a fabriqué parfois des bombes à retardement social. Ces difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous êtes les acteurs au quotidien. Les maires sont essentiels. Mais quand je vois, moi, par exemple, et ça, je pense que, Corinne, vous allez certainement abonder dans ce sens, que vous avez des dotations qui fondent à vue d'œil d'année en année.
Je ne vais pas abonder dans votre sens.
Parce qu'il aurait été
souhaitable. Et j'espère que ceux qui ont menti, y compris leur population, reviennent sur leurs paroles. Des villes comme les nôtres, et nous sommes un nombre certain en Seine-Saint-Denis, ont été beaucoup péréquées. Nous, notre ville, finalement, a très peu perdu de par la baisse de la DGF, parce qu'on a eu beaucoup de compensations. Et c'est le cas de toutes les villes qui avaient 40% de logement social et au-delà.
Il faut sacraliser ce que vous dites, puisque on a écouté une soixantaine de maires d'Île-de-France à la MIF. C'est très courageux. Je regrette vraiment que vous n'ayez pas participé à l'émission, mais je suis ravi de vous entendre à ce point-là.
Il faut dire la vérité.
Vous n'allez pas vous faire des amis, mais ça va être très intéressant.
Peu importe, mais c'est la vérité. Moi, je connais des villes dans ce département qui ont plus d'argent aujourd'hui qu'ils n'en avaient avant la baisse de la DGF. Alors, c'est des villes comme la nôtre qui ont beaucoup de logements sociaux, donc beaucoup de difficultés à gérer au quotidien.
Bien sûr.
Mais en fait, la baisse de la DGF a été compensée. Moi, ça ne me fait pas pleurer, je peux la citer très tranquillement, que Neuilly-sur-Seine, son maire ou ses élus hurlent parce qu'ils ont moins d'argent. Mais je suis preneuse. Moi, je veux bien prendre le maire une semaine ici chez nous et on décortique son budget, on lui montre comment on fait des économies qui nous permettent quand même de vivre et qui permettent de développer le service public et l'investissement.
On appelle Jean-Christophe Fromentin à venir.
Je peux parler de Neuilly-sur-Seine, mais il y en a bien d'autres.
Pendant 8 jours. Non, on l'a eu sur le plateau. Et effectivement,
vous savez, il doit pleurer, mais il a raison.
L'avantage d'un média, c'est que c'est une agora où tout le monde peut se rencontrer sans forcément se taper sur la tête et confronter les résultats. Alors là, vous êtes vraiment fidèle à vous-même dans le fait de dire les choses sans concession et très directement. Loïc, effectivement, quand on a en même temps des acteurs locaux qui ont cette volonté, franchement, ça simplifie les choses.
Ah oui.
Clairement.
Ah oui. Oui. Mais je pense que on peut pas.
Là, on n'est pas sur un discours dogmatique. On peut pas éviter
la notion de concertation et de pédagogie. Et ce qui est vraiment remarquable dans cette commune, c'est qu'il y a cette volonté d'expliquer, de concerter, d'échanger, de négocier. Voilà. Et je pense que la ville de demain, ça sera toujours le résultat d'une bonne négociation.
Voilà. Ça veut pas dire qu'on se fait, qu'on ouais. Comment dire que
c'est pas complaisant.
Oui,
voilà. Ça on reste quand même. On est
on
dans la
s'engueule plusieurs fois.
Absolument.
Ah bah oui, mais
on s'engueule et puis
c'est passionné.
Nous on tient notre point de vue. Voilà. Lui, il
comme
tient son
belle
point de vue.
Il faut savoir s'engueuler de temps en temps.
On essaie de faire valoir le point de vue en tous les cas que nous on défend, celui du public.
En tout cas, effectivement, avoir la capacité d'un promoteur privé qui connaît bien le sujet social, puisque, et pour cause, il a eu aussi une longue carrière dans le logement social, mais aussi la finance, c'est avoir une approche globale et une approche qui répond finalement à toutes les problématiques. En tout cas, vous êtes des acteurs locaux qui vous distinguez aussi par le courage que vous avez à mettre en œuvre les projets. Je prends le cas, par exemple, des tours maraîchères. Vous savez, il y a quelques années, ça faisait rire tout le monde, hein, l'agriculture urbaine. Ça faisait rire tout le monde. Aujourd'hui, ça fait rire beaucoup moins de gens.
C'est mieux.
Et je vais m'aller plus loin. Vous avez vu les rapports qui ont été donnés même à l'OMC. On en parle aujourd'hui même dans les couloirs de l'ONU au niveau mondial. On pense très sérieusement que l'agriculture urbaine va non seulement permettre aux gens de travailler beaucoup plus le biotope et la biodiversité, qui est une vraie problématique, mais qui était une problématique si on élargit le concept, pour la protection de, à la fois de la nature et de la planète. Comme, comme dirait, je ne sais pas qui a prononcé cette phrase, il n'y a pas de planète B. Effectivement, le souci des problématiques des terres arables par rapport à la métropolisation des villes, c'est une solution. Ce que vous avez fait, c'est extraordinaire. Le projet que vous avez initié, l'énergie que vous avez développée, est extraordinaire. Elle est reprise un peu partout.
Mais elle est reprise à New York avec un architecte français. Hein.
Absolument. Hein,
la Tour de la Recherche.
Oui, en plus, vous avez choisi, vous, un Paris. Vous avez choisi un Paris, c'est la pousse pleine terre.
Oui.
Vous n'avez pas choisi l'hydroponie.
Ah non. On n'en a même pas voulu du tout.
Oui. Non, mais vous avez des idées très précises sur la question. Vous avez développé la pousse pleine terre, vous avez développé aussi sur le plan architectural ce qui permet aussi de le gérer. Et vous êtes allé plus loin, vous avez travaillé sur une fusion entre le PLU urbain et le PLU agricole. Vous avez créé un tour de force. Et ça, c'est une initiation qui va permettre d'essaimer complètement là-dessus. Vous vous rappelez les détracteurs qui, à l'époque, disaient oui, les trucs de bobo, c'est bien gentil,
on rigole,
etc.
Et puis les sourires entendus.
Oui, bien sûr. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des promoteurs aujourd'hui qui s'en font vraiment un point d'orgue d'arriver à mener ce type de projet. Vous devez être fier de ça, finalement, dans une certaine mesure.
Bien sûr.
D'avoir résisté suffisamment pour aboutir à ce type de
Bien sûr, mais vous savez, souvent on s'est posé la question si nous arriverions à boucler les financements, parce qu'on avait besoin de financement public,
je l'avais exprimé sur
ce plateau déjà, et en fait, voilà, ça, on a réussi, y compris de ce point de vue-là, ce qui n'était pas gagné d'avance, ce qui a pris plus de temps que ce que nous aurions souhaité.
Absolument.
Mais bon, là, ça y est,
vu en Europe, vu dans les autres villes de France, vu en Europe, au MIPIM, c'est incroyable, on m'a parlé de ce projet. Vu aux États-Unis, vu en Amérique latine, vous êtes en train de créer quelque chose qui est absolument formidable. Vous en avez été l'initiatrice. Alors, je rappelle simplement aux personnes qui nous écoutent que l'hydroponie, c'est une pousse agricole hors sol, c'est-à-dire qui n'est pas ancrée dans la terre, mais dont certains disent que la qualité des nutritive
n'est pas du tout la même,
effectivement. Et vous savez, on était aux Assises de la Pierre Papier, on avait Bernard Roth, qui fait partie du plan bâtiment durable, qui disait, vous savez, quand on prend la planète, on se rend compte en fait que la réalité, c'est que la pousse, les terres arables, c'est 25 cm. Par rapport au manteau de la Terre. Donc, finalement, vous aviez raison sur toute la ligne. On approche malheureusement du terme de cette émission. On va peut-être faire une petite minute supplémentaire parce que Corinne Val voulait ajouter quelque chose.
Oui, juste quand même repréciser parce que c'est aussi objet de débat. Et certains imaginent l'agriculture urbaine venant en concurrence de l'agriculture traditionnelle. Moi, je veux vraiment ajouter que ça dépend du tout l'objectif. Et je pense qu'il d'ailleurs il serait utopique et fou d'imaginer qu'on puisse remplacer les terres à les terres arables. Et voilà, je pense que dans notre tour maraîchère, il n'y aura jamais. Excusez-moi, mais il y a des photos que je n'aime pas sans mon avis et sans mon autorisation. Donc, par exemple, dans la tour maraîchère, je pense qu'on ne cultivera jamais, par exemple, de pommes de terre. Ça n'a pas de sens.
Bien sûr.
Ça n'a pas de sens. Et je crois qu'il faut le dire avec insistance.
Oui, c'est important. Oui. Et puis de le rééquilibrer en fonction des problématiques que peuvent avoir les agriculteurs eux-mêmes, les maraîchers qui entourent l'île de France. Et ça, c'est un sujet important. On est sur des sujets qui en fait se compensent et se complètent.
Voilà.
C'est très intéressant ce que vous dites. Je pense même que ça mériterait de le théoriser. Et je vous suggère très fortement, si vous pouvez le faire, d'écrire un livre. Et moi, je prends un pari. On a aussi une maison d'édition à Radio Imo que nous avons créée, qui s'appelle Imocité. Et si vous le souhaitez, on vous édite quand vous voulez.
Chiche.
Chiche.
Voilà. D'accord. On va vous raconter notre histoire d'agriculture.
Et on vous édite. Il n'y a aucun problème. Et on assurera toute la promotion avec l'énergie que vous connaissez. C'est la fin de cette émission. Moi, je suis toujours
ravi.
Je suis toujours ravi de vous voir parce qu'on passerait des heures à parler
avec vous. C'est partagé, Sylvain.
Mais c'est un plaisir qui sera absolument renouvelé. Ça,
très bientôt, d'ailleurs.
Ça donne envie. Voilà. Vous donnez envie de s'impliquer quand on voit votre énergie, parce que vous êtes tous blasés. C'est extraordinaire, malgré tout ce que vous avez vu. Et Dieu sait que vous en avez vu. Et qu'on ne vous a pas fait de cadeau. Et vous gardez la même fraîcheur et la même énergie. Et ça, les administrés, même si parfois ils sont un peu ingrats, de temps en temps, etc., ils le découvriront à long terme. Vous avez un maire exceptionnel, mesdames et messieurs. Et ça, je peux vous le dire, on en a vu beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Corinne Valls,
merci beaucoup
d'avoir participé à cette émission. Mon cher Jacques, je suis ravi parce que c'est la première fois qu'on l'entend à la radio directement. On l'a bien, au MIPIM, absolument. Oui. Au MIPIM, en tout cas, il est magnifique. Là, il y en a qui avancent en âge, alors lui, il fait le contraire. Hein.
Voilà, je suis comme le vin.
Ça devient, voilà.
C'est
extraordinaire. Et bien sûr, notre promoteur préféré, le président de Primovilla, Loïc Lemans, sans lequel nous ne serions pas ici. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir participé aussi à cette émission. Et on va en mention spéciale à notre Michou national. Michou national qui en fait est en train de tester un nouveau brevet pour, hein, puisqu'il a une espèce de fantasme, c'est vouloir que ses cheveux repoussent. On va lui dire que l'espoir fait vivre, il faut toujours y croire.
Oui.
Absolument. En tout cas, on vous embrasse bien fort à toutes et à tous. Merci beaucoup.
Oui, merci.
On se quitte pas, on reste toujours ici, ici le 26 juin à Romainville sur ce plateau magnifique aux Salaisons, important, les Salaisons, avec d'autres plateaux pour vous parler de ce projet extraordinaire de cet immeuble au 17 Wilson. A tout de suite.
Merci.
Merci.
Lundi 26 juin 2017, Primovilla vous propose de vivre l'inauguration du 17 Wilson, un immeuble exceptionnel situé à Romainville. Une émission à écouter à partir de 18h en direct sur radio-imo.fr.
Radio-imo.fr.